Bien, bonsoir à tous, bienvenue pour notre cours d'histoire de l'Église, cette quatrième vidéo destinée pour ce cours de doctrine pour adultes cette année. Et ce soir, nous allons étudier l'apogée de l'Église dans son histoire. Nous allons commencer par notre prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien, après avoir vu, il y a un mois, étudier le Haut Moyen-Âge, arrêtons-nous ce soir sur cette époque, justement, de l'apogée du christianisme, l'incarnation de ce que nous appelons la chrétienté. Alors, il ne faut pas idéaliser non plus cette époque, puisque vous allez le voir, c'est un chemin de croix, qui est l'histoire de l'Église, et même lors de cette époque qui est le Moyen-Âge, cette chrétienté que nous connaissons un petit peu à travers l'épopée des croisades, mais il n'y a pas que les croisades et les victoires de l'Église dans la société. Il nous faut commencer par cette lutte de l'Église contre les pouvoirs oppresseurs. Et nous allons voir dès maintenant ce que nous appelons la querelle des investitures, qui fait partie des trois abus qui désolèrent l'Église catholique, donc au Xe et XIe siècle. Ces trois abus sont tout d'abord le trafic des dignités ecclésiastiques, c'est ce qu'on appelle la simonie. Le deuxième abus, c'était le mariage des clercs, assez répandu au Xe siècle. Et puis, le troisième abus justement, c'est l'investiture laïque, c'est-à-dire cette nomination des évêques ainsi que des pères abbés par des personnes laïques, comme les rois et les princes. En 1073, un certain moine bénédictin, Hildebrand, fut élu pape sous le nom de Grégoire VII. Il va combattre très énergiquement cet abus, justement, ou même les autres, par des décrets qu'il envoyait par ses légats dans toute la chrétienté, afin justement de remettre de l'ordre dans l'Église. Il interdit formellement les investitures laïques, justement, et ordonna de revenir à l'ancienne discipline, c'est-à-dire que les évêques doivent être élus par leurs prêtres, ainsi que par leurs fidèles, et les abbés, les pères abbés, élus par leurs moines. Il y eut beaucoup de résistance, notamment en Allemagne et en Angleterre, mais Grégoire VII, par son autorité, va réussir à retrouver cette discipline antique. Une autre lutte que va devoir subir l'Église, c'est ce combat entre le pouvoir, si vous voulez, du sacerdoce et le pouvoir de l'Empire. Et la cause de cette lutte, entre autres, c'est que certains légistes, au début du XIIe siècle, vont remettre en vigueur le vieux droit romain qui consacrait justement l'absolutisme royal. Il n'y a aucune autorité au-dessus du roi. Et même certains courtisans de l'empereur, qui était à l'époque donc Frédéric Barberousse, accusèrent le pape d'usurper les droits de l'empereur. Et il va même justement choisir, le pape va choisir des évêques, va élire de nouveaux évêques sans justement consulter l'empereur, et cela va le mettre en rogne, bien évidemment. Le pape Alexandre III, ayant été élu sans l'assentiment justement de l'empereur, tout à l'heure, excusez-moi, c'est l'empereur Barberousse qui avait choisi de nouveaux évêques sans l'accord du Saint-Siège. Et là, le nouveau pape, Alexandre III, lui, sera élu sans l'assentiment de l'empereur, qui justement se mettra en colère et élit donc un antipape, Victor IV, auquel succédera Pascal II, qui béatifia Charlemagne, d'ailleurs, pour donner plus de prestige au titre d'empereur. Les villes du nord de l'Italie formèrent donc toute une armée pour soutenir le vrai pape, Alexandre III, et ils vont former la Ligue Lombarde et bâtir Frédéric Barberousse. Il va demander la paix en 1177 à Venise, et le pape va donc retrouver son indépendance complète. Et deux ans plus tard, justement, au Concile de Latran, on va décréter que l'élection du pape se ferait désormais lors du conclave et seulement par les cardinaux. L'influence de la papauté, du pape sur toute la chrétienté, atteignit son apogée avec le pontificat d'Innocent III, qui sera élu pape en 1198. Et une petite histoire, justement, pour nous montrer l'influence de ce pape, cette histoire qui commence donc avec la mort d'Henri VI, fils lui-même de Barberousse. Henri VI va donc mourir, et deux princes vont se disputer l'Empire. Le pape fit élire Othon IV comme empereur, mais en lui faisant promettre de laisser une grande liberté à l'Italie. Mais Othon IV, dès qu'il prit le trône, dès qu'il monta sur le trône, bien oublia ses promesses et va dominer sur l'Italie. Alors Innocent III va lui opposer un rival, le jeune Frédéric II. Et Frédéric II va devenir empereur après sa victoire sur Othon IV à Bouvines, justement en 1211. Alors Frédéric II, qui vient de monter sur le trône, ne va pas respecter Innocent III, qui pourtant l'avait nommé empereur. Frédéric II va encercler les états du pape, et n'ayant pas tenu son serment de partir en croisade, il sera excommunié par Innocent III. Alors, il va marcher contre le pape et jette en prison une centaine d'évêques qui s'étaient réunis pour le Concile de Rome à cette époque. Le pape qui va succéder sera Grégoire IX, qui va mourir de douleur de cette attaque de l'empereur, justement de Frédéric II. Mais ce n'est pas fini avec cet empereur qui va se rebeller contre Rome. Un pape sera élu, Innocent IV, sera élu après 20 mois de vacances du siège. Il y aura un conclave, disons, de plus de 20 mois pour élire ce nouveau pape, Innocent IV, qui déposa Frédéric II. Furieux, celui-ci entre en guerre contre le pape, mais il mourut après plusieurs échecs en 1250. Vous voyez que on voit bien ce combat, ce conflit entre le pouvoir de l'Église, pouvoir spirituel, mais aussi le pape avait un pouvoir temporel qu'il pouvait utiliser face aux empereurs qui imposaient des choses dont il n'avait pas le droit de faire dans le domaine de l'Église. Par exemple, la nomination des papes ou des évêques, il était normal que le pape utilise son pouvoir temporel afin de les remettre en place. Mais ce n'est pas fini. En France, il va justement avoir une grande difficulté d'accepter le pouvoir du pape. À cette époque, c'est Boniface VIII qui désirait unir toute la chrétienté contre les musulmans qui prenaient beaucoup d'ampleur. Sa politique idéaliste, donc de Boniface VIII, d'unir tous les royaumes, se brisa contre la politique plus réaliste, disons, des princes dont les ambitions se résumaient à des ambitions simplement nationales. Ils ne voyaient pas plus grand que leur royaume, et donc ils n'avaient pas à s'unir aux autres contre l'islam. Le roi de France, notamment Philippe le Bel, incarnait cette politique réaliste. Ces tendances absolutistes le poussaient justement à ne considérer aucune autorité au-dessus de lui, pas même Dieu, dont l'Église est l'interprète officiel. Voilà pourquoi il ne va surtout pas écouter l'appel du pape et continuera à avancer dans sa manière de faire. Il s'appropriait les biens de l'Église, il est aussi disposé des revenus ecclésiastiques à son bon vouloir, ce qui était tout à fait contraire aux usages reconnus. Et donc, pour se plaindre, Boniface VIII va envoyer un légat auprès de Philippe le Bel, roi de France, et le roi va tout simplement faire emprisonner ce légat comme rebelle. Le pape va donc lui adresser une bulle, un texte, hein, dans lequel il revendiquait son pouvoir pour juger le roi de France comme il avait tout pouvoir sur tous les chrétiens, en tant que gardien suprême de la morale du Christ. Pour exciter le mécontentement de la nation française, disons, à cette époque, eh bien, ce texte va être falsifié, changé, et la France va donc sera furieuse contre le pape. Et devant cet outrage, Boniface VIII se décida à lancer tout simplement l'excommunication contre Philippe le Bel. Le roi passa en Italie et emprisonna le pape à Anagni le 8 septembre 1303. C'est un moment très connu dans l'histoire de l'Église. Le roi de France emprisonne le pape. Et malgré ses 86 ans, le pape fera face, va supporter avec fermeté les mauvais traitements et ses outrages. Mais bientôt, les habitants d'Anagni vont le libérer et il put rentrer à Rome et il mourut 2 mois plus tard. Sa mort, va marquer la fin d'une grande époque dans l'histoire de la papauté de l'Église, puisque après lui, l'influence temporelle des papes commencera petit à petit à décliner. Après ces quelques luttes donc contre l'empereur et même différents hommes politiques, l'Église va devoir lutter contre un pouvoir, disons, encore plus pernicieux qu'est l'islam, qui commençait donc à se répandre dans la chrétienté, notamment dans l'Église d'Orient, soit en Afrique du Nord, et bien sûr en Terre Sainte, sur le pays même de notre Seigneur. Ils vont devenir maîtres de la Palestine dès le 7e siècle, et depuis le 7e siècle, les Arabes s'étaient montrés très tolérants pour les pèlerins du Saint-Sépulcre. Mais au milieu du 11e siècle, les Turcs, qui avaient pris la tête du monde musulman, s'emparèrent de Jérusalem. Et donc, évidemment, qu'ils vont empêcher tous les pèlerins, ou en tout cas, ils vont accabler les pèlerins de mauvais traitements, et aussi, c'est à noter, ils menaçaient d'envahir l'Europe. Et donc, sous l'inspiration des papes, les chrétiens d'Occident entreprirent ce que nous appelons les croisades. Ce sont de grandes expéditions avant tout religieuses, mais aussi militaires, qui avaient un double but. Le premier, de libérer le Saint-Sépulcre des musulmans, de la domination musulmane, mais aussi le deuxième but, c'était de protéger l'Europe de l'invasion des Turcs, puis qui pouvait donc s'avancer, on le verra, ou on l'a vu la dernière fois, lors de Lépante, ou de la bataille de Vienne. Les Turcs étaient aux portes de l'Europe, et la chrétienté n'aura de cesse que de les repousser pour protéger l'Europe chrétienne. Alors voyons très rapidement les différentes croisades. La première croisade, qui va se dérouler de 1095 à 1099, c'est le pape Urbain II qui proclama cette première croisade à Clermont, en France, devant une foule énorme qui a couru à l'occasion d'un concile, donc en 1095. Il exhorta tout d'abord les seigneurs à cesser en fait leur querelle féodale, leur lutte fratricide, et va leur demander de s'associer pour lutter contre les ennemis de notre Seigneur Jésus, et termina son discours fameux, avec cette parole de notre Seigneur: « Quiconque veut venir après moi, qu'il se renonce et qu'il prenne sa croix. » Et tous les futurs croisés, tous les assistants, s'écrièrent « Dieu le veut !» Et c'est alors qu'ils vont coudre sur leur habit une croix rouge sur leur poitrine, se croisant, et afin de partir donc en croisade, nous les appelons les croisés, en raison de cette croix cousue sur leur habit, en réponse à l'appel du pape Urbain II. Par décision du pape, prendre la croix, c'était s'engager par vœu à combattre les infidèles. Il fallait aller jusqu'au bout, sinon il fallait aller à Rome pour se faire, si vous voulez, enlever ce vœu qu'on a pris en prenant la croix sur son habit. L'Église accordait à tous les croisés une indulgence plénière et prenait sous sa coupe la famille et les biens que les croisés laissaient dans leur pays. À la suite donc du concile de Clermont, d'où partit cette première croisade, ou en tout cas ce premier élan, à la suite de ce concile, des prêtres et des moines, notamment le plus célèbre Pierre l'Ermite, ils vont prêcher la croisade dans différents villages pour soulever une sorte d'armée populaire afin de partir en Terre Sainte. Ils vont partir donc sur les chemins, mais périr tous, presque en tout cas entièrement, en raison de leur très mauvaise organisation et surtout parce qu'ils n'avaient aucun moyen de se défendre face à l'ennemi. C'est pour ça qu'au printemps 1096, donc une petite année après le premier appel d'Urbain II, l'armée féodale se dirigea vers Constantinople avec à sa tête le fameux Godefroy de Bouillon qui va diriger cette première croisade avec Baudouin, son frère. Après plusieurs victoires lors de leur périple, ils arrivèrent face à Jérusalem sur ce mont. Ils vont s'écrier « Montjoie » parce que pour la première fois, ils vont voir la ville sainte de Jérusalem. Ils vont l'assiéger pendant 5 semaines de combat et le vendredi 15 juillet 1099, à 3h de l'après-midi, les croisés occupèrent Jérusalem, enfin. Godefroy de Bouillon, vrai chef de croisade, fut élu roi de Jérusalem, mais lorsqu'on lui offrit, vous savez, une couronne d'or, il s'écria, il refusa et il s'écria « À Dieu ne plaise que je porte une couronne d'or en ce lieu où le Christ a porté une couronne d'épines. » C'est pour ça qu'il a refusé de porter le titre de roi, mais il porta simplement le titre de baron du Saint-Sépulcre. Cependant, ses successeurs, eux, prendront le titre de roi de Jérusalem dans ce royaume de Jérusalem qui va commencer avec Godefroy de Bouillon. Ce dernier va publier un code de loi, on appelle ça les assises de Jérusalem, qui établissait le régime féodal en Palestine. Et de plus, pour défendre ce nouveau royaume, on établit différents ordres religieux, hein, comme les hospitaliers, les templiers, qui étaient des ordres militaires, on en reparlera tout à l'heure. Voilà donc pour la première croisade, qui, vous le savez peut-être, est la seule qui réussit sa mission à libérer le Saint-Sépulcre, les lieux saints de la domination musulmane. Ils vont instaurer le royaume de Jérusalem avec ses différentes lois. En 1144, Édesse, donc une ville de Terre Sainte, fut reprise par les Turcs, par les musulmans. Et c'est cela qui va pousser Eugène III a organisé une nouvelle croisade et c'est Saint Bernard qui prêcha donc à Vézelay le départ de cette deuxième croisade en 1146. Cette deuxième croisade dura jusqu'en 1148. Le roi de France Louis VII et l'empereur d'Allemagne Conrad III partirent donc à la tête de leurs troupes. Donc vous voyez, c'est quelque chose de sérieux. Les gens sont armés, bien organisés. Mais trompés par des guides grecs, ils durent livrer de rudes combats pour traverser l'Asie mineure. Et après avoir fait leur pèlerinage à Jérusalem, ils assiégèrent inutilement Damas et ramenèrent en fait en Europe de faibles débris de leurs armées sans avoir vraiment libéré Jérusalem. Le seul résultat aussi intéressant qu'imprévu de cette deuxième croisade, c'est la prise de Lisbonne. C'est très curieux, mais des croisés anglais et hollandais qui passaient par la mer, aidèrent les chrétiens d'Espagne à reprendre Lisbonne aux Arabes. Donc nous sommes en 1147, c'est un peu le seul résultat positif de cette deuxième croisade. Nous arrivons donc à la troisième aventure des croisés, 1189-1191. Nous sommes quasiment un siècle après la libération de Jérusalem par Godefroy de Bouillon en 1099. Saladin, sultan d'Égypte, s'était emparé de Jérusalem et avait anéanti à Tibériade l'armée de Guy de Lusignan, qui était à l'époque roi de Jérusalem. Et donc, pour réparer ce désastre, le pape Clément III fit prêcher justement la troisième croisade. Elle eut pour chef Philippe Auguste, donc roi de France, Richard Cœur de Lion, roi d'Angleterre, et Frédéric Barberousse, empereur d'Allemagne, dont on a parlé tout à l'heure. Donc, beaucoup suivirent ces trois rois, et tous ceux qui ne pouvaient pas partir dans cette expédition payèrent une dîme qu'on appelle la dîme Saladine, pour contribuer, couvrir, si vous voulez, les frais de cette troisième croisade. Arrivés en Palestine, les croisés mirent le siège devant Saint Jean d'Acre, qui capitula après un an de résistance. Une croisée qui fut assez longue. Philippe Auguste rentra en France après cette victoire, en laissant Richard Cœur de Lion, qui multipliait ses d'inutiles exploits. Il ne put reprendre Jérusalem, mais laissa un très mauvais souvenir aux musulmans de par sa bravoure et ses différentes victoires. Mais, vous voyez, sans reprendre la ville sainte. En 1202, le pape Innocent III fit prêcher donc une nouvelle croisade pour libérer les lieux saints et afin de permettre de nouveau les pèlerinages sur les pas de notre Seigneur. Un grand nombre de chevaliers français et italiens aussi prirent la croix, justement, sous les ordres de Baudouin, comte de Flandre. Mais les Phéniciens, qui fournirent à cette nouvelle armée des vaisseaux, détournèrent l'expédition à des fins plutôt politiques que religieuses. Et au lieu de secourir les chrétiens de Palestine, les croisés se retrouvèrent à Constantinople, s'emparèrent de la ville et fondèrent un empire latin qui dura 57 ans, donc de 1204 à 1261. Vous voyez, une croisade un peu inutile et qui même laissa de très mauvais souvenirs aux orientaux, pardon, de la part des croisés. Il faut parler, bien sûr, quand on parle des croisades, d'une croisade très particulière, la croisade des enfants, qui a eu lieu, ou en tout cas qui a débuté et très mal fini, en 1212. Les hommes ayant manqué à leur promesse de délivrer le tombeau du Christ, eh bien ce sont les enfants qui voulurent libérer Jérusalem. C'est magnifique comme sentiment, mais des milliers d'enfants se réunirent en France et en Allemagne. Plus de 15 000 jeunes Français se retrouvèrent à Marseille, où en fait des misérables trafiquants d'enfants les vendirent quasiment tous sur des marchés d'esclaves en Afrique. Et donc cette croisade qui n'avait pas commencé, une fin tragique. Mais on peut quand même voir la ferveur du peuple chrétien à l'époque qui laissait partir ses enfants pour libérer le tombeau du Christ. En 1217 va débuter la cinquième croisade conduite par André II, roi de Hongrie, et Jean de Brienne, roi de Jérusalem. Elle échoua en Palestine par suite en fait de la division qui sévit entre les chefs. Hein, c'est ce qui va beaucoup pécher lors de cette aventure des croisades, c'est vraiment le manque de discipline entre les différents chefs d'expédition et cette division qui va entraîner donc la perte, ou en tout cas ce côté inutile de certaines croisades. En 1228, on avance dans le temps, la sixième croisade est lancée avec Frédéric II, empereur d'Allemagne, qui va profiter des divisions qui régnaient au sein de l'islam pour se faire céder Jérusalem, et il prit le titre de roi de Jérusalem et repartit chez lui tranquillement. Sauf que ce nouveau royaume resta livré à l'anarchie pendant 15 ans, et Jérusalem finit bien sûr par tomber aux mains des infidèles, hein, puisqu'il n'y avait aucune discipline sur place. Les musulmans en ont profité pour reprendre cette ville qui, je vous rappelle, pour les musulmans est un lieu saint, c'est le lieu où Mahomet se serait élevé vers le ciel, là où se trouve aujourd'hui cet immense dôme doré, où en dessous se trouve le rocher duquel se serait élevé Mahomet. Donc voilà pourquoi les musulmans n'auront de cesse de reprendre cette ville aux chrétiens. En 1248, cette date devrait vous dire quelque chose. Pour répondre aux appels du pape Innocent IV, le grand roi Saint-Louis, roi de France, entreprit la septième croisade. Il fit voile donc vers l'Égypte et s'empara de Damiette. Mais à cause de l'impétuosité de son frère, les différentes batailles les mena à la défaite, malheureusement. Saint-Louis va être prisonnier par les musulmans, ainsi que de nombreux soldats. Et le roi va retrouver la liberté en rendant Damiette aux musulmans et en donnant beaucoup d'argent pour libérer son armée. Il visita ensuite la Palestine, où il racheta énormément de captifs, et revient en France après avoir émerveillé les chrétiens d'Orient, après avoir laissé un très bon souvenir du roi français par ses vertus, sa bienfaisance, que ce soit chez les chrétiens de Palestine, mais aussi chez les musulmans. En 1268 va avoir lieu la huitième et dernière croisade. Les misères des chrétiens de Palestine, justement, étaient devenues extrêmes, et donc Saint-Louis ne pouvait pas laisser passer ce genre de choses. Il entreprit donc de repartir en croisade. Il débarqua sur les ruines de Carthage, près de Tunis, où il pensait justement ensuite partir vers l'Égypte. Mais vous le savez, la peste ravagea son armée près de Tunis, et lui-même fut atteint par ce fléau. Il se fit coucher sur un lit de cendres et mourut le 25 août 1270, après avoir reçu les derniers sacrements, et avec une très belle mort qui laissa tous ses soldats dans la peine, mais aussi avec beaucoup d'admiration envers ce roi qui, vous savez, est devenu le grand roi Saint-Louis. Alors, que retenir de ces huit croisades alors qu'il n'y en a qu'une seule, la première, qui atteignit véritablement son but, la conquête de la Palestine. De fait, on l'a vu, malgré la bravoure des croisés, toutes ces expéditions échouèrent par manque de discipline, par manque d'union. Mais cependant, les croisades eurent des résultats heureux et même durables qu'il faut retenir pour prendre conscience de l'importance de ces expéditions religieuses et militaires. Tout d'abord, les croisades accrurent la salutaire influence de la papauté dans le monde, et prouvèrent même à l'Orient, hein, vous savez, qui était un peu en bisbille avec l'Église de Rome, prouvèrent à l'Orient que Rome était vraiment le centre et le centre de l'unité catholique, puisque toute la chrétienté se levait quand le pape parlait. La deuxième chose, c'est que les croisades ravivèrent la piété des fidèles. Évidemment, comme tout pèlerinage, comme toute démarche qui demande de sortir de chez soi, eh bien, ça ravive la piété, la foi dans les âmes, et c'est ce qui s'est passé en fait grâce aux croisades qui ont attiré énormément de chrétiens. Les croisades élevèrent aussi le niveau moral des peuples chrétiens, parce qu'elles étaient une école de courage et d'abnégation. Elles sauvèrent aussi, pensez-y quand on parle des croisades, elles sauvèrent la civilisation chrétienne en repoussant de trois siècles la prise de Constantinople. Parce que si Constantinople avait été pris par les Turcs, lors des croisades, eh bien l'Empire, ou plutôt l'Europe, manquant encore d'organisation, n'aurait pu résister à l'invasion musulmane. Alors vous savez que Constantinople sera pris trois siècles plus tard, mais là, l'Europe, donc trois siècles plus tard, aura assez de force pour résister à l'invasion musulmane. Mais à l'époque des croisades, ce n'était pas encore le cas. Donc les croisades vont providentiellement être le moyen de protéger aussi l'Europe de l'invasion turque. Ces croisades diminuèrent aussi, bien sûr, les guerres privées. Elles rapprochèrent les classes sociales, puisque les nobles et les vilains, si vous voulez, partageaient les mêmes souffrances, les mêmes victoires, apprirent à mieux se connaître et à s'aimer davantage. Et ce lien tissé, en tout cas sur les chemins vers la Terre Sainte, eh bien, vont rester quand ils vont retourner au pays. Donc voilà, bien retenir ces différentes, si vous voulez, résultats sur le long terme des croisades, même si, objectivement, il n'y a que la première en 1099 qui va réussir son but. Alors après avoir parlé de cette épopée, il nous faut revenir sur ces luttes que mène l'Église, et notamment la lutte contre les hérésies. La première des hérésies que l'Église va devoir repousser, c'est celle de Béranger, archidiacre d'Angers, qui est le premier hérétique ayant attaqué le dogme de la présence réelle dans la Sainte Eucharistie. Il sera condamné et il mourut repentant en 1081. C'est, vous savez, au XIe siècle, XIIe siècle, où l'adoration envers la Sainte Eucharistie va se développer, avec le salut du Saint-Sacrement un peu plus tard, mais aussi l'élévation de la Sainte Hostie et du calice contenant le précieux sang. L'élévation vont apparaître petit à petit lors de cette époque où on remettait un peu en question le dogme eucharistique. On en reparlera tout à l'heure. Une autre hérésie contre laquelle l'Église va devoir lutter, c'est celle des Vaudois. Ce nom vous dit peut-être quelque chose. Il vient de Pierre Valdo, riche marchand lyonnais, qui distribua tous ses biens aux pauvres et commença vers 1176 à prêcher la pauvreté absolue à tous les membres du clergé. Et il déclarait aux foules que tout clerc qui possède quelque chose est en fait en état de péché mortel et qu'il ne peut pas donner les sacrements. Vous comprenez que c'était en fait désorganiser totalement la société ecclésiastique qui est basée sur notamment le clergé et donc ça désorganisait la société chrétienne. Ces nombreux adhérents à cette secte, si vous voulez, à cette hérésie, s'appelèrent les Vaudois. Ils furent vivement combattus et cette hérésie aujourd'hui a encore quelques adhérents par-ci, par-là. Une autre hérésie beaucoup plus importante, plus redoutable, la plus redoutable des hérésies du Moyen-Âge, est celle des Albigeois. Elle apparut surtout aux environs d'Albi, d'où son nom, les Albigeois. On les appelait aussi les Cathares ou les Purs. Cathares, en grec, ça veut dire pur. Comme les Manichéens, eh bien, ils enseignaient l'existence de deux dieux, si vous voulez. Un dieu bon et un dieu mauvais. Et ces cathares, ces albigeois, se divisaient en deux classes. D'un côté, les croyants, le peuple, si vous voulez, et d'un autre, les parfaits. Les parfaits renonçaient au mariage, renonçaient à toute propriété et aussi à l'usage de viande. Alors que les simples croyants étaient enseignés par les parfaits, et les parfaits leur enseignaient la haine du clergé, la haine de la foi catholique, et leur conseillaient l'union libre, préférablement au mariage. Ils condamnaient aussi le serment, condamnaient le service militaire. Et on voit bien l'importance de cette hérésie dans toute la société médiévale, puisqu'elle était basée donc notamment sur la foi chrétienne, aussi sur le serment, sur le service militaire. Et donc cette hérésie n'allait pas seulement contre la foi chrétienne, mais aussi contre tous les fondements de la vie sociale. C'est pour ça que l'Église va mettre toute sa puissance pour combattre ces doctrines, entre autres par des prédicateurs pleins de zèle et pleins de charité, Saint Bernard et Saint Dominique. Beaucoup d'hérétiques répondront à ces prédications pleins de charité par la haine et la violence. Et c'est justement ce qui va pousser le pape à envoyer un légat en 1208. Ce légat fut assassiné, Pierre de Castelnau, et le pape organisa donc une croisade, la croisade des Albigeois, dirigée par Simon de Montfort, qui s'empara des villes occupées par les hérétiques, d'où viennent justement les châteaux cathares, et encore, ils sont appelés de façon un peu abusive, comme cela. Il y eut bien sûr de regrettables excès lors de cette croisade, de part et d'autre. Mais il est à préciser aussi par rapport à Simon de Montfort qu'il n'a jamais prononcé cette fameuse parole « Tuez-les tous, Dieu saura bien reconnaître les siens ». C'est apocryphe. Hein. Il n'a jamais dit cela. Un chrétien, un catholique, ne peut pas prononcer et tuer au nom de Dieu, bien sûr. Alors un petit mot justement sur l'Inquisition. Hein. Contre les hérésies vaudoises et albigeoises, et même les autres, l'Église institua ce qu'on appelle donc le tribunal de l'Inquisition en 1184, ainsi appelé l'Inquisition, parce que sa mission consistait justement à s'enquérir des hérétiques. Ils enquêtaient sur leur foi, savoir ce qu'ils professaient. Ils essayaient bien sûr de les convertir, de les faire revenir vers la vraie foi, et en cas d'obstination, bien l'Église les livrait aux bras séculiers, ne pouvant plus rien faire pour eux, qui, d'après les lois de l'époque, les condamnaient au supplice du feu. Mais voyez bien, c'est le bras séculier qui les condamnait au bûcher, et non l'Église catholique. Ce tribunal, donc l'Inquisition, qui était d'abord confié aux évêques, passa aux dominicains et aussi aux franciscains en 1233. L'Inquisition, comme on le sait trop bien, donna quelquefois lieu à des abus, mais il ne faut pas retenir que cela quand on parle de l'Inquisition. Voyez-vous, l'Inquisition portait de vrais jugements, un jugement équitable qui contenait, il faut que tenir compte des mœurs de l'époque quand on parle de cette institution, et se rappeler que l'Église se contenta d'abord des peines spirituelles. Un hérétique était pris, on lui demandait donc de renier ses hérésies, et on lui ordonnait, on lui donnait une pénitence, si vous voulez, et puis il revenait au sein de l'Église. Voilà. Mais l'Église ne recourait pas au châtiment corporel, ou en tout cas, s'ils l'ont fait, si l'Église a recouru au châtiment corporel, c'est sous la pression de l'opinion publique et sous la pression des souverains. Et il est à noter que ces tortures infligées dans les procès étaient très rares et beaucoup moins cruelles que les tortures infligées par les procès civils. Il fallait beaucoup mieux être jugé par l'Église, puisque ils avaient un avocat, ce qui était quasiment inconnu à l'époque. Il y avait des moyens de défense inconnus donc à l'époque et inventés, si vous voulez, par les tribunaux ecclésiastiques. Donc attention quand on parle de l'Inquisition, hein, de ne pas tout mélanger. L'Inquisition comme institution ecclésiastique avant tout a permis la conversion, la reconversion de nombreux fidèles, de nombreux hérétiques, et les autres, eh bien, étaient rendus au bras séculier. Alors, il nous faut bien sûr, ce soir, quand on parle du Moyen-Âge, parler de la vie intérieure de l'Église au XIIe et au XIIIe siècle, et notamment des ordres religieux hein, qui vont fleurir durant cette période de chrétienté. Et retenez que jusqu'au XIIe siècle, il n'existait que des ordres contemplatifs. Ce n'est qu'après le XIIe siècle qu'apparaissent les ordres, actifs, apostoliques, hein, qui vont travailler à leur propre sanctification, bien sûr, mais aussi à la sanctification des âmes de manière plus directe en étant dans le monde. Alors, quelques ordres contemplatifs apparus au XIe et XIIe siècle, ces ordres cloîtrés. Le premier, bien évidemment, qui est l'ordre des Chartreux, fondé en 1084 par Saint Bruno, conduit par l'évêque de Grenoble dans le fameux massif de la Chartreuse, ce qui a donné donc le grand monastère de la Grande Chartreuse. Ils partagent leur temps entre la prière, l'étude, le travail manuel et tout ça dans une stricte solitude dans leur petite maison avec un jardin. Ils vivent donc chacun de leur côté, ne se rencontrent que une ou deux fois par jour, la nuit bien sûr pour le fils de nuit, et les vêpres, je crois, au cœur, sinon au chapitre, au réfectoire le dimanche, et pour une promenade hebdomadaire, en tout cas pour les prêtres. Cet ordre assez équilibré, disons, en tout cas qui a fait ses preuves, va se répandre très rapidement dans toute l'Europe et il est resté si fidèle à sa règle que, chose rare, elle n'a pas eu besoin de réforme depuis plus de 8 siècles. Voilà pour les chartreux. Un autre ordre contemplatif, l'ordre de Cîteaux ou les Cisterciens, créé en 1098 par saint Robert de Molesme pour réagir contre l'affaiblissement des bénédictins, qui ne seraient pas contents d'entendre cela, mais l'affaiblissement de la discipline, plus précisément des Clunisiens, hein, l'abbaye de Cluny. Et quelques années plus tard, ce sera le grand saint Bernard qui illustra ce nouvel ordre, y ouvrit jusqu'à 160 monastères, entre autres celui de Clairvaux, hein, en 1115, dont il fut le père abbé. Un autre ordre contemplatif, les Trappistes, qui justement, eux, sont des cisterciens, mais réformés, fondés au XVIIe siècle par l'abbé de Rancé. J'en parle maintenant parce qu'il y a un lien très fort avec les cisterciens fondés au XIe siècle. Les Trappistes s'appellent comme ça en raison du lieu de leur fondation à la Trappe en Normandie. Voilà. Il y en a d'autres, on ne peut pas tout énumérer, mais bien sûr, il y a les deux principaux, les chartreux, ainsi que les cisterciens. Souvenez-vous, on avait parlé bien sûr des bénédictins lors de notre dernier cours. Mais lors du Moyen-Âge, beaucoup d'ordres actifs, contemplatifs, non cloîtrés, vont émerger. Notamment, on en a parlé tout à l'heure, les ordres militaires qui eurent pour mission de protéger les pèlerins de Palestine et aussi de combattre les infidèles. En premier lieu, on peut nommer bien sûr les chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem, appelés d'abord les hospitaliers parce qu'ils avaient pour rôle de soigner les malades, les pèlerins, les croisés qui arrivaient et qui étaient blessés. Ils furent fondés en 1100 et dans la suite, ils portèrent le nom de chevaliers de Rhodes puis chevaliers de Malte, hein, qui existent encore aujourd'hui, qui ont pour ancêtre donc les fameux chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem. D'autres chevaliers, les chevaliers du Temple ou les Templiers, en raison du lieu de leur fondation, à côté du temple de Jérusalem en 1118, près des ruines donc du temple des Juifs. Et à cause de son relâchement, l'Église supprima cet ordre au début du XIVe siècle. Vous connaissez un petit peu toutes les histoires qui tournent autour des Templiers. Et enfin, un autre ordre militaire, les chevaliers teutoniques, institués en 1190, constitués uniquement d'Allemands, qui eux aussi vont protéger les pèlerins de Terre Sainte, les soigner et combattre les infidèles. À côté de ces ordres militaires, il y a d'autres ordres qui, eux, vont avoir pour mission de racheter les captifs. On peut en nommer deux, les Trinitaires et les Mercédaires. Les Trinitaires sont fondés par Saint Jean de Matha et Saint Félix de Valois, qui ont un très bel habit, donné je crois par une apparition de Notre-Dame à Saint-Félix de Valois. Et les mercédaires ou religieux de Notre-Dame de la Merci, justement pour racheter les captifs, fondés par Saint-Pierre Nolasc et Saint-Raymond de Peignafort. Un autre ordre que nous pouvons nommer, fondé donc au XIIe siècle, en 1120, l'ordre des Prémontrés, fondé donc à Prémontré même, dans le diocèse de Laon, fondé par Saint Norbert. Et cet ordre est le premier exemple de vie monastique mixte, joignant, vous voyez, la contemplation avec l'apostolat plus extérieur, souvent aux alentours de leur monastère. Et puis, bien sûr, on ne peut pas ne pas citer tous les ordres mendiants qui vont surgir au XIIe siècle, XIIIe siècle, pour répondre justement aux attaques des hérésies, notamment l'hérésie des Vaudois. Hein. Dieu suscita ces ordres mendiants, ainsi nommés parce que leurs membres ne vivent que d'aumônes, hein, comme bien sûr les franciscains, fondés par saint François d'Assise, les dominicains, fondés par saint Dominique, les carmes qui vont reprendre, si vous voulez, la spiritualité d'Élie, qui était un ermite dans l'Ancien Testament sur le mont Carmel, et puis on peut nommer aussi les Augustins, oui, des ordres mendiants qui vont réagir face à ces hérésies et qui vont rassurer, si vous voulez, peut-être le peuple chrétien en étant exemplaire au niveau de cette pauvreté absolue demandée pour certains, demandée par Jésus dans l'Évangile pour certains quand ils ont la vocation. Après donc ce bref aperçu des différents ordres qui ont émergé au Moyen-Âge, voyons un petit peu aussi bien sûr la vie intellectuelle du XIIe et XIIIe siècle. On l'appelle le Moyen-Âge, mais en fait on devrait l'appeler l'âge des Lumières, puisque c'est vraiment à cette époque où vont surgir d'immenses intelligences qui vont développer la philosophie, mais aussi toute la théologie dont on peut encore s'imprégner aujourd'hui. Jusqu'au XIIe siècle, les écoles restèrent accolées aux évêques, aux palais épiscopaux et aux monastères, et leur importance dépendait en fait de l'écolâtre ou du maître qui les dirigeait, comme l'école de l'abbaye de Dubec, l'école de Chartres, l'école de l'abbaye de Saint-Victor, très connue. Et petit à petit vont se former ce qu'on appelle les universités. Au Moyen-Âge, ce mot s'appliquait à la corporation des maîtres et des étudiants d'une même cité. Et c'est cette union entre les maîtres et les étudiants, qui quittaient leur pays, traversaient les frontières pour venir se faire former par des maîtres reconnus, et ainsi se sont formées les universités. Les premières en date sont les universités de Bologne en 1111, de Paris en 1200, d'Oxford et de Cambridge, donc au début du XIIIe siècle, et beaucoup d'autres, bien sûr. Et grâce à l'appui des différents papes, il faut savoir que l'université de Paris était la plus célèbre, la plus fréquentée. On venait de l'Europe entière pour se faire former par l'université de Paris, et on la regardait comme la troisième puissance de l'Église après la papauté et après l'Empire. À noter que c'est notamment l'université de Paris qui va condamner Sainte-Jeanne d'Arc lors de son procès. Bon, en tout cas, cette université va influencer, en tout cas pour la disparition de Jeanne. Ces universités renouvelèrent l'étude des sciences philosophiques et théologiques. Hein, elles cherchèrent l'accord entre l'accord des enseignements de la foi avec la philosophie des anciens, notamment Aristote. Hein, ils vont prendre Aristote pour guide, ce philosophe très célèbre, et ils vont unir donc toute la foi, la théologie, avec cette philosophie réaliste pour approfondir, creuser les notions théologiques. Et cette nouvelle méthode scientifique, si vous voulez, s'appellera la scolastique, parce qu'elle prit naissance et se développa dans ces écoles, ces fameuses universités. En parallèle avec ces universités, on va voir surgir d'illustres théologiens qui vont venir perfectionner la vie intellectuelle de cette époque. Par exemple, Saint Bernard, dont on a parlé tout à l'heure, hein, qui mourut en 1153, qui occupe vraiment la première place dans la vie intellectuelle du XIIe siècle. Dans la vie intellectuelle, mais aussi dans la vie politique et la vie religieuse. C'est un orateur enflammé, un théologien vigoureux et aussi un mystique suave et très sûr. C'est pour ça que nous pouvons lire avec beaucoup de confiance tous ses écrits, qui sont magnifiques, beaucoup de sermons de Saint Bernard, notamment au sujet de Notre-Dame. Un autre grand théologien, Pierre Lombard, mort en 1164, c'est lui qui va rédiger, voyez-vous, le premier manuel pratique de théologie, nous l'appelons le livre des sentences. Tous les élèves et les grands maîtres, pour faire leur doctorat, si vous voulez, en tout cas pour faire leurs preuves, devaient commenter ce fameux livre des sentences dont on va se servir durant 3 siècles. C'est gigantesque, vous voyez. Mais évidemment que quand on parle de grands théologiens du Moyen-Âge, il faut bien sûr citer 2 dominicains qui se consacrèrent justement à cette adaptation de la philosophie d'Aristote et du dogme catholique. C'est ce que nous appelons la scolastique, hein, cet assemblage de la philosophie et réaliste et de la théologie. Le premier dominicain, c'est bien sûr saint Albert le Grand, hein, qui commença cet important travail d'ajustement. Il connaissait toutes les sciences de l'époque. C'est pour ça qu'on l'appelle le docteur universel. Et il eut comme élève, comme disciple, un futur dominicain, un futur grand saint, que nous appelons justement saint Thomas d'Aquin. Saint Thomas d'Aquin finira le travail de son maître, saint Albert le Grand, en réalisant justement une si harmonieuse conciliation entre la raison et la foi, que toute sa pensée sera connue, et encore aujourd'hui, sous le nom de thomisme. Vous voyez cette pensée incroyable, basée sur cette philosophie réaliste, une théologie très claire, et grâce à une immense intelligence, une grande sainteté aussi, bien sûr, eh bien, il va creuser et répondre à énormément d'interrogations, donner beaucoup de réponses sur des sujets les plus difficiles que nous pouvons trouver donc dans son œuvre colossale, qui est bien sûr la somme théologique. Il méritera le titre de docteur angélique, et sa somme, la somme théologique qui a été faite à la base pour les débutants en catéchisme, en théologie, le niveau a un petit peu baissé, disons, même si, bien sûr, il ne faut pas avoir peur d'aller farfouiller dans une ou deux questions de la somme, notamment dans la tertia pars, la troisième partie, sur la vie de notre Seigneur. Voilà, c'est toute une méditation sur Jésus, et on peut réellement voir une vraie vie intérieure de ce grand théologien. Les grands théologiens sont aussi des grands spirituels, hein. On ne fait pas de théologie. La théologie se fait à genoux devant le Saint-Sacrement, comme saint Thomas d'Aquin, bien sûr. Donc la somme théologique est le plus important monument intellectuel des siècles chrétiens, et Léon XIII a proclamé saint Thomas patron des écoles catholiques. Et n'oubliez pas que cette somme théologique aurait pu ne jamais arriver jusqu'à nous, parce que saint Thomas, après avoir vu une apparition du bon Dieu, bien a voulu tout brûler en disant cela n'est que de la paille par rapport à ce que j'ai vu. Heureusement, son disciple a retiré du feu son ouvrage, en tout cas c'est tout son travail, et nous pouvons donc, c'est quasiment un miracle, avoir en notre possession aujourd'hui la somme théologique. On a parlé de deux dominicains, il faut bien sûr parler d'un franciscain, saint Bonaventure, qui a été enterré dans l'église de saint Bonaventure, dans le centre de Lyon. Son corps n'est plus là en raison de la Révolution française. Saint religion, un religieux franciscain, il devint général de son ordre, grand cardinal, et il mourut pendant le Concile de Lyon en 1274, la même année que saint Thomas d'Aquin d'ailleurs, saint Thomas se rendait au Concile de Lyon. Saint Bonaventure va développer une grande science théologique aussi, et sa tendre piété l'ont fait surnommer donc le docteur séraphique. Enfin, pour finir, voyons très rapidement la vie liturgique au 11e, 12e et 13e siècle. La messe, tout d'abord, à partir du 11e siècle, les cérémonies de la messe, en fait, ne subissent plus trop de grands changements. Les formules qui achèvent de se fixer, vous voyez, dans différentes oraisons, etc., et les prières avant l'introïte et les prières après l'itemissa est deviennent obligatoires. Et toutes les prières de l'autel, ainsi que la bénédiction, le dernier évangile, tout cela devient obligatoire à partir donc de cette époque. En 1215 aussi, c'est important ça, le Concile de Latran créa le mot de transubstantiation pour exprimer le changement de substance du pain et du vin en corps et en sang de notre Seigneur durant la consécration. Hein. Ce mot théologique a été exprimé, trouvé, donc au XIIIe siècle, au Concile de Latran. À noter aussi au XIIe siècle l'élévation de l'hostie lors de la messe pour protester en fait contre une hérésie qui reportait le changement de la substance du pain après la consécration du calice. Certaines personnes disaient que le pain se changeait en corps du Christ seulement après la consécration du calice. Bon. Et donc, pour repousser cette hérésie, on a institué cette élévation pour que les fidèles puissent adorer notre Seigneur réellement présent dès la première consécration du pain qui devient le corps de notre Seigneur. On peut aussi parler des fêtes nouvelles. Le calendrier de l'année va s'enrichir de nouvelles fêtes à la grande satisfaction des serfs et des domestiques pour qui s'augmentaient d'autant plus les jours de repos. Hein. Dans certains diocèses, il y avait plus de 50 fêtes chômées, ce qui était quand même très intéressant. À noter aussi la fête du Saint-Sacrement, la fête Dieu, instituée à la suite d'une vision de la bienheureuse Julienne de Montcornillon, près de Liège, en 1264, et le pape Urbain IV demande à saint Thomas de composer l'office de cette fête, le Tantum Ergo, l'Audacion, etc. Tous ces textes merveilleux qui montrent une fois de plus la grande sainteté de cet homme. Si on parle des sacrements, n'oublions pas que jusqu'au XIIe siècle, la distinction entre les sacramentaux, ces bénédictions qui donnent les grâces en fonction de la foi avec laquelle on les reçoit, donc ça les sacramentaux, la distinction entre les sacramentaux et les sacrements n'était pas encore très bien faite. Il a fallu attendre Pierre Lombard qui va définir ce qu'est un sacrement, un signe sensible institué par notre Seigneur qui cause la grâce. Et alors l'Église va en retenir seulement 7. Le baptême, la confirmation et l'Eucharistie étaient donnés au début en même temps, puis petit à petit, on les donnera progressivement en différentes cérémonies distinctes. La pénitence et l'extrême-onction étaient donc données pour effacer les péchés commis après le baptême, et le sacrement de l'ordre pour perpétuer le sacerdoce, et le sacrement du mariage pour sanctifier la famille. Voilà donc la liste des 7 sacrements qui étaient bien fixés donc au XIIe siècle. Ça ne veut pas dire que les sacrements n'existaient pas avant, bien sûr. Mais, si vous voulez, la liste a été précisée donc au XIIe. Bien sûr, le Moyen-Âge est l'époque d'une grande dévotion mariale. Hein. La dévotion à Marie se développa puissamment donc au Moyen-Âge grâce aux admirables prédications de Saint Bernard qui va propager cette dévotion. Les plus belles prières à Marie, comme le Salve Regina, l'Alma Redemptoris Mater, vont être écrites durant cette époque. L'usage de l'Ave Maria, du Je vous salue Marie, se répandit beaucoup, mais il ne comprenait pas encore la deuxième partie qui viendra un peu plus tard. Et saint Dominique propagea la récitation du rosaire, justement pour détruire les hérésies qui faisaient rage à son époque. Quant à la vie artistique, on peut parler bien sûr de l'art ogival qui va remplacer petit à petit l'art roman qui florissait au XIe siècle, mais vers le milieu du XIIe siècle, cet art roman va se transformer en art ogival qui va être appelé vulgairement l'art gothique. Hein. Il apparut et se développa dans l'île de France, et de là va rayonner dans les autres provinces ainsi que dans les autres pays d'Europe, grâce notamment aux ordres monastiques et aux influences, à l'influence des évêques. Et voyez-vous, la grandeur, l'élévation, la finesse de ces nouvelles constructions est la véritable image de cette époque, de la spiritualité de l'époque, tout cet élan vers le ciel, toute cette clarté, puisque l'art ogival est signe de lumière, toute cette ampleur montre donc la grandeur d'âme de ce peuple qu'est la chrétienté du Moyen-Âge. Alors en conclusion, retenons que cette période de l'histoire que nous aimons bien contempler, et on peut encore la contempler aujourd'hui à travers nos cathédrales, à travers bien sûr la somme théologique de saint Thomas, à travers toute cette théologie, tout cet état d'esprit de la chrétienté qui nous a été transmis malgré les différentes difficultés et remous de l'histoire. Il faut vraiment l'appeler le siècle des Lumières, même si évidemment ce n'est pas comme ça que l'histoire officielle l'appelle, mais ce Moyen-Âge est en fait l'âge immense hein, des grands saints, de la chrétienté. L'Évangile éclairé est venu irriguer toutes les strates de la société. La chrétienté faisait vraiment du Christ le roi des rois, permettait aux hommes, cette société permettait aux hommes d'aveler vers le ciel assez, non pas facilement, mais en tout cas, tout cet état d'esprit, tout ce qui entourait les âmes leur permettait d'aller vers Dieu. Il a fallu évidemment de nombreux siècles pour en arriver là. Nous sommes héritiers de cet âge, à nous aussi de transmettre les quelques restes que nous avons aujourd'hui, malgré eh bien, la décadence chrétienne que nous pouvons connaître. Mais voyez-vous, nous verrons la prochaine fois justement la décadence qui a suivi l'âge d'or de l'Église que nous venons d'étudier. Cette décadence qui pourtant, eh bien, malgré cela, le bon Dieu continue à sauver et à sanctifier les âmes. C'est ce que nous verrons la prochaine fois au mois de mars. Nous allons finir donc par notre prière et je vous remercie de votre intention. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans tous les siècles des siècles, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous, saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous dis à bientôt.